bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin.
Le prix du pamphlet a été décerné pour la première fois à Robert Sipion pour son livre « Prête-moi ta plume ».
Mais « Prête-moi ta plume » est-il un pamphlet ?
Les jurés eux-mêmes ne l'affirment pas.
Serait-ce qu'après 5 ans d'oppression, les Français n'osent plus crier ce qu'ils pensent ? Et qu'après une si longue période d'étouffement, ils n'osent plus gueuler ?
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Nul ne peut en disconvenir sérieusement. Internet a libéré sur sa toile une profusion de violences verbales et créé dans nos démocraties un climat de suspicion généralisée envers toutes les autorités. On est loin d'être encore à même d'apprécier à coup sûr la portée de ce phénomène sur la longue durée. On est loin de pouvoir faire le départ entre les profits possibles, moraux et civiques, d'une surveillance bienvenue et d'autre part les dévergondages de procédés qui risque d'être ravageur pour le fonctionnement de n'importe quel régime, sauf des dictatures impitoyables qui répriment sans pitié ces expressions. S'agit-il d'un défouloir légitime ou d'un poison ravageur ? Pour en juger, il faut, comme toujours, se hâter de ne pas exagérer l'inédit. Dans la quête des précédents, on pourrait se reporter au temps des Mazarinades de la Fronde ou à celui des écrits sinistres qui circulèrent contre Louis XVI et Marie-Antoinette à la fin de l'Ancien Régime. Nous l'avons fait ici, naguère. Mais ce matin, mon projet est de braquer l'attention sur les derniers moments du Second Empire et sur les premières décennies de la Troisième République à la fin du XIXe siècle. Ce fut en effet l'époque où fleurirent en abondance des pamphlets d'une extrême violence contre les pouvoirs en place. La loi très libérale de juillet 1881 leur ouvrit un champ qui put paraître sans limite jusqu'à faire litière de tout respect humain. Cédric Passard, maître de conférence à l'Institut d'études politiques de Lille, mon invité, s'est attaché à ce sujet. À ses yeux, cette effervescence pamphlétaire et la diffusion massive des caricatures politiques les plus brutales ont accompagné logiquement l'entrée de la France à l'âge des foules dans une modernité politique, culturelle et médiatique. Voilà bien qui reste à démontrer et à comprendre sous l'éclairage rétrospectif de nos inquiétudes contemporaines.
Le pamphlétaire est celui qui attaque en faisant feu de tout bois.
Jean Dormesson de l'Académie française.
On ne peut pas être entre triple guillemets avec tous les points d'ironie que vous voulez et avec tout ce que ça comporte de sottise. Hein, je le dis très fortement, avec tout ce que ça comporte de sottise, je ne crois pas qu'on puisse être bien élevé entre guillemets et être un pamphlétaire. C'est l'inverse. Daudet et Blois ont d'immenses qualités littéraires que j'envie beaucoup. Ce sont des mufles. Certainement, la définition du pamphlétaire, c'est en partie d'être un mufle. Alors, qu'est-ce qu'il arrête ? Il y a une chose qu'il arrête, c'est non pas la bonne éducation, la pitié, la générosité, l'amitié, la fraternité, la solidarité, rien de tout ça, la dignité, tout ça, il s'en tape, tous les mots et les valeurs, il se les fout au cul, le pamphlétaire. Ce qu'il arrête, c'est sa propre efficacité. Il faut qu'il voit là où on peut... Jusqu'où on peut aller, comme dit génialement Cocteau, jusqu'où on peut aller trop loin.
Cédric Passard, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert, vous l'avez sûrement reconnu, d'ailleurs on l'a nommé Jean Dormesson, qui peut surprendre dans ce rôle d'intérêt, d'un peu de fascination, de distance envers l'art du pamphlet.
Oui, c'est vrai, parce que généralement pour les... les hommes des belles lettres, le pamphlet, c'est plutôt un genre assez peu noble. Et c'est souvent un genre qui est passé quand même sous silence de l'histoire de la littérature. Et on sait que Jean d'Ormesson avait fait une autre histoire de la littérature, justement, à laquelle il nous convie à travers ce rappel sur la férocité peut-être des pamphlétaires, mais qui ont aussi une capacité littéraire quand même à faire des bons mots dans cette vision aussi des choses, que, comme il nous le rappelle, hein, l'audace, c'est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Et donc, effectivement, il y a une audace pamphlétaire qui peut parfois dériver quand même vers une forme de virulence aussi beaucoup moins audacieuse et parfois assez largement haineuse quand même.
Jusqu'à l'ordure.
Jusqu'à l'ordure, oui.
Alors, je voudrais que nous commencions, comme souvent, c'est toujours éclairant, par une réflexion sur l'origine du mot. Vous me disiez que c'est un intérêt langagier au départ qui vous a fait vous tourner vers ce beau sujet.
Oui, en effet, puisque c'est l'étude de Marc Angenot qui avait travaillé au début des années 80 sur la parole pamphlétaire en tant que rhétoricien, linguiste, historien de la littérature et qui avait mis en évidence un certain nombre de procédés littéraires. Et en fait, c'est très difficile de définir exactement ce que c'est qu'un pamphlet. D'ailleurs, George Orwell, qui avait une formule assez intéressante là-dessus, il disait finalement, définir un pamphlet, c'est un peu comme essayer de définir un chien. Tout le monde sait ce que c'est en le voyant, mais c'est très difficile finalement de trouver les critères et de reconnaître ce qui distingue un chien d'un renard, par exemple. Et un pamphlet, c'est un peu pareil. C'est parfois difficile de le distinguer d'autres formes de genre, comme la satire ou la polémique.
Nous allons néanmoins nous y employer. Pamphlet, d'où vient le mot? Il vient de Grande-Bretagne, où vous citiez Orwell, mais il n'a pas le même sens. Pamphlet, chez les Britanniques, c'est un petit livre, une brochure, un fascicule. Et en français, le mot a évolué. De quand cela date-t-il? Et d'où vient vous avez une idée de l'étymologie du mot pamphlet?
Alors, il y a des étymologies un peu baroques et sans doute fausses, mais qui sont assez intéressantes, notamment une qui ferait remonter le pamphlet à finalement une étymologie grecque qui voudrait dire panflecto, qui voudrait dire tout brûler, finalement. Donc, le pamphlet serait un écrit directement incendiaire. En réalité, il semble plutôt que ça viendrait de Pamphilé, qui était une comédie satirique en vers latin. Et au départ, donc finalement, le terme est français avant d'être anglais, mais il s'est perdu et il est revenu par l'Angleterre avec le sens plutôt de brochure, où on n'avait justement pas le sens nécessairement d'écrit satirique ou d'écrit agressif. Et ce sens, il va le retrouver très progressivement, mais plutôt au 19e siècle, notamment avec quelqu'un comme Paul-Louis Courier.
Nous allons parler de Courier, bien sûr, mais il faut, comme toujours, chercher la préhistoire, l'archéologie du moment Troisième République, Second Empire, Troisième République, auquel nous allons consacrer notre émission. La chose a existé avant le mot. On peut par exemple évoquer les mazarinades, les fameuses mazarinades dirigées très directement contre le cardinal au moment de la Fronde en particulier.
Bon, les mazarinades sont justement des libelles, c'est-à-dire au départ des petits écrits injurieux, essentiellement d'abord contre Mazarin, mais de manière générale, dans les mazarinades, on a introduit l'idée que c'était tous les textes, même parfois qui prenaient la défense de Mazarin, mais qui sont justement directement des ancêtres du pamphlet, c'est-à-dire des petits écrits qui sont très agressifs et violents. L'histoire de France est sans doute ponctuée de grands moments pamphlétaires qui accompagnent souvent les moments de crise ou les moments aussi d'affaiblissement parfois du pouvoir. Et donc les moments de régence, le moment notamment de la Fronde va être un de ces moments vraiment, peut-être un des premiers grands moments pamphlétaires qu'a bien étudié Christian Jouot.
Notamment. Vous l'avez invité à ce micro il y a déjà longtemps.
Et il montrait tout l'intérêt justement de cette étude des textes, puisque c'est à la fois une modalité très singulière de parole que le pamphlet, mais lui il voyait d'abord dans ses pamphlets des coups politiques et finalement des textes d'action. Il y a peu d'idées politiques dans les mazarinades et ces mazarinades sortent par grappes, donc il y voyait une forme peut-être préalable d'action collective dont il ne faudrait pas peut-être surestimer le potentiel subversif. C'est-à-dire, ce qu'il montre, c'est que c'est cette Fronde des mots est en réalité pour beaucoup le fait de jeu de pouvoir au sein de l'élite dirigeante, et même si on met en scène le peuple, c'est pas forcément, évidemment, directement des écrits vraiment d'origine populaire.
Plus subversif peut-être les écrits contre Louis XVI et contre Marie-Antoinette à la fin de l'Ancien Régime, on en a toute une collection. Et en l'occurrence, c'est Robert Darnton que j'avais convié pour en parler.
Oui, alors les libelles pré-révolutionnaires ou révolutionnaires ont sans doute joué là un rôle peut-être plus important dans le fait de saper un peu l'autorité royale, même si évidemment c'est discuté. On ne sait jamais si c'est parce que justement l'autorité déjà affaiblie que ces libelles prospèrent, ou si ces libelles y contribuent à diffuser par d'une autre manière les idées peut-être des Lumières.
Oui, la cause ou l'effet.
C'est toujours la difficulté, mais c'est vrai que, comme le dit Darnton, ces libelles sont un peu des Rousseau du ruisseau, hein, c'est-à-dire finalement ils diffusent un peu la philosophie des Lumières, mais par des voies de contrebande et sous des formes beaucoup plus populaires et outrancières à l'époque.
Alors Courier, effectivement, Paul-Louis Courier, c'est un maître du pamphlet. Néanmoins, il faut marquer que c'est dans un paysage politique différent de celui que nous allons considérer, c'est-à-dire la Troisième République, puisqu'il s'agit d'un moment où la liberté de la presse, la liberté d'expression est très sévèrement contrainte, et où par conséquent, il faut sans cesse que les pamphlétaires s'affirment contre la justice en particulier. Paul-Louis Courier, vous voulez bien le présenter, après nous le donnerons à entendre.
Oui, alors Paul-Louis Courier, c'est un officier, c'est un ancien soldat qui va progressivement justement être, disons, révulsé par la guerre et qui va s'attaquer à la fois aux autorités militaires, aux autorités aussi d'ailleurs religieuses et finalement au pouvoir.
Sous Louis XVIII.
Et notamment, bien sûr, sous Louis XVIII. Et donc, justement, il va faire les frais, Paul-Louis Courier, de ses attaques contre les autorités, ce qui lui vaudra des procès, et notamment un procès retentissant.
Il a écrit un livre, au-delà de ces pamphlets eux-mêmes, qui s'appelle « Le pamphlet des pamphlets », en l'an de grâce 1824. De quoi s'agit-il? Je vais vous faire écouter un extrait, mais présentez-le d'abord.
Oui, « Le pamphlet des pamphlets », c'est un texte satirique qui tourne en dérision le procès, qui est celui de Courier, et c'est Courier lui-même qui tourne en dérision son procès, en partant de la catégorie dans laquelle on le discrédite, qui est celle de pamphlétaire. Hein. Donc, c'est pas une étiquette qu'il revendique, celui de pamphlétaire, c'est d'abord une étiquette qu'on lui accole, qui est celle du procureur, et finalement il part de ce discrédit qui est celui qui lui est accolé.
C'est une sorte de construction en abîme, c'est un pamphlet à propos des pamphlets, et écoutez cette lecture que nous devons à René Clermont d'un extrait de ce texte, le pamphlet des pamphlets, qui donc remonte à 1824, de Paul-Louis Courier. C'est une archive que j'ai emprunte à l'émission La littérature de Roger Vrigny sur France Culture, le 14 décembre 1972.
Je me trouvais sur le grand degré avec M. Artus Bertrand, libraire, un de mes jurés, qui s'en allait dîner, m'ayant déclaré coupable. Je le saluai, il m'accueillit, car c'est le meilleur homme du monde, et chemin faisant, je le priai de me vouloir dire ce qui lui semblait à reprendre dans le simple discours condamné. « Je ne l'ai point lu, me dit-il, mais c'est un pamphlet, cela me suffit. » Alors je lui demandai ce que c'était qu'un pamphlet et le sens de ce mot qui, sans m'être nouveau, avait besoin pour moi de quelque explication. « C'est, répondit-il, un écrit de peu de pages, comme le vôtre, d'une feuille ou deux seulement. De trois feuilles, repris-je. Serait-ce encore un pamphlet ? Peut-être, me dit-il, dans l'acception commune, mais proprement parlant, le pamphlet n'a qu'une feuille, seule. Deux ou plus font une brochure. Et 10 feuilles, 15 feuilles, 20 feuilles font un volume, dit-il, un ouvrage. Moi, là-dessus, monsieur, je m'en rapporte à vous qui devez savoir ces choses. Mais hélas, j'ai bien peur d'avoir fait, en effet, un pamphlet, comme dit le procureur du roi. Sur votre honneur et conscience, puisque vous êtes juré, monsieur Artus Bertrand, mon écrit d'une feuille et demie, est-ce pamphlet ou brochure? Pamphlet, me dit-il, pamphlet sans nulle difficulté. Je suis donc pamphlétaire. Je ne vous l'eusse pas dit par égard, ménagement. Compassion du malheur, mais c'est la vérité. Monsieur, lui dis-je, de grâce encore une question. Deux, me dit-il, et plus, et tant qu'il vous plaira, jusqu'à 4h30, qui, je crois, vont sonner. Bien, voici ma question. Si au lieu de ce pamphlet sur la souscription de Chambord, j'eusse fait un volume, un ouvrage, l'auriez-vous condamné? Selon. J'entends. Vous l'eussiez lu d'abord pour voir s'il était condamnable. Oui, je l'aurais examiné. Mais le pamphlet, vous ne le lisez pas. Non, parce que le pamphlet ne saurait être bon. Qui dit pamphlet dit un écrit tout plein de poison. De poison? Oui, monsieur, et du plus détestable. Sans quoi, on ne le lirait pas. Votre pamphlet que nous venons de condamner, par exemple, je ne le connais point, je ne sais en vérité, ni ne veux savoir ce que c'est, mais on le lit, il y a du poison. Monsieur le procureur du roi nous l'a dit, je n'en doutais pas. C'est le poison, voyez-vous, que poursuit la justice dans ces sortes d'écrits, car autrement, la presse est libre. Imprimez, publiez tout ce que vous voudrez, mais non pas du poison. Vous avez beau dire, messieurs, on ne vous laissera pas distribuer le poison. Cela ne se peut en bonne police, et le gouvernement est là qui vous en empêchera bien.
On aperçoit ici assez bien, Cédric Passard, me semble-t-il, les procédés du pamphlétaire tel qu'il commence de se dessiner avec Paul-Louis Courier sous la Restauration.
En effet, on voit bien que Courier, là, il joue du terme pamphlet, hein, dont on disait tout à l'heure qu'au départ, il signifiait brochure et petit texte, et finalement, il se demande pourquoi ces pamphlets, ils ont si mauvaise réputation. Parce que justement, comme ce sont des petits textes, ils peuvent dire la vérité directement, sans fioriture. Et donc, ils sont violents pour les pouvoirs en place qui ne supportent pas la vérité.
Je pensais, en écoutant ce texte, également au prince de Ligne, qui est un peu antérieur, il est mort au moment du traité de Vienne, qui disait que ce qui le poussait à écrire ce genre de texte, c'était l'honneur et c'était l'horreur. C'est toujours vrai avec Courier ?
Ah oui, puisque justement, en Courier, on voit la mise en scène justement d'une posture pamphlétaire. Le pamphlet, c'est pas simplement un style, c'est aussi une posture héroïque. Celui qui est un redresseur de tort, qui s'oppose au pouvoir, le petit contre les grands. Donc il y a une vocation un peu héroïque, une mise en scène d'une forme de vocation, comme une sorte d'appel du pamphlétaire. Et donc on a quand même un imaginaire même un peu religieux ou prophétique qui est à l'époque d'ailleurs très présent dans la littérature sur lequel se greffe l'imaginaire du pamphlétaire.
Peut-être doit-on signaler que Courier est mort dans des conditions tragiques et presque métaphoriques.
Oui, puisqu'on ignore bien les circonstances de sa mort. Il a été assassiné dans son jardin et donc on se pose la question de savoir si ça a été justement une sorte de représailles contre lui, de forme de représailles politiques. Il semble plutôt que c'était beaucoup plus lié à des éléments de sa vie personnelle. Ce serait plutôt ses domestiques qui se seraient vengés parce qu'il allait vendre sa propriété.
Tant pis, donc enfin, ce n'est pas une signification politique ou littéraire majeure.
Non, voilà.
On va s'y résigner. Ce qui intéresse aussi, c'est de voir qu'à l'époque des mazarinades, comme nous évoquions tout à l'heure, ou des pamphlets, avant le terme, la chose existait contre Louis XVI ou Marie-Antoinette, et même pendant la Révolution française, les populations, le public que l'on touchait, était relativement limité. Dans le cas des mazarinades, c'était un public urbain. Dans le cas de la Révolution, on touchait peut-être 5 à 10% des Français et des Françaises. Avec le 19e siècle et l'ère médiatique qui commence et les moyens techniques de toucher un beaucoup plus large public, on change de dimension et c'est peut-être une des conditions nécessaires pour que survienne cet âge d'or du pamphlet auquel vous avez consacré ce livre précieux.
Oui, c'est-à-dire que justement la fin du 19e siècle marque l'entrée dans l'âge de l'imprimé, c'est d'abord l'âge d'or de la presse, et le pamphlet va pouvoir s'appuyer sur ce support qui est le support de presse et qui va lui permettre d'avoir une diffusion beaucoup plus grande qu'il ne l'avait jusque-là. Par ailleurs, c'est aussi par les moyens techniques, on a une diminution quand même du prix de ces textes qui permet quand même une diffusion là aussi très grande, sans nous oublier d'ailleurs que ces textes peuvent être lus parfois dans les cafés et que finalement, ils passent de main en main. Donc, les tirages qui sont déjà assez énormes, souvent, ils sous-estiment la diffusion réelle de ces textes.
Large diffusion, quasi gratuité, on s'approche de notre toile, de notre Internet d'aujourd'hui.
Oui, et d'ailleurs, on a des formes assez proches aujourd'hui dans les modalités même de l'expression sur Internet, qui est relativement peu régulée encore aujourd'hui, même si ça commence peut-être à l'être un peu plus qu'il y a 10 ans.
Souhaitons-le.
Et en tout cas, les pamphlets, finalement, bénéficiaient quand même d'une certaine impunité aussi et d'une liberté de ton qui n'est pas sans rappeler, justement, c'est ce qu'on voit sur les forums ou les blogs, et avec une liberté souvent excessive dans la parole.
Est-ce que l'anonymat existe déjà dans le cas des pamphlets de cette seconde partie du 19e siècle?
Alors là, c'est peut-être la différence avec notre époque où justement, sur les blogs, on joue souvent des pseudonymes ou de l'anonymat. Et ça, ça rappellerait plutôt les mazarinades ou les libelles révolutionnaires. Ce qui change justement avec la fin du 19e siècle, c'est qu'on entre là, au contraire, dans une période où on invente des vedettes du pamphlet. Donc on a des personnalités qui sont connues pour telles et qui signent leurs textes, alors même que sous les mazarinades ou dans les pamphlets pré-révolutionnaires, on estime que seulement 10% à peu près des textes étaient signés.
Eh bien, puisque vous parlez des personnalités qui symbolisent, qui émergent, au premier rang, vous inscrivez à bon escient Rochefort. Et je voudrais que vous situiez ce personnage dont la gloire s'affirme, la notoriété, puis bientôt une forme de gloire à la fin du Second Empire. Ce qui d'ailleurs fait réfléchir à la question de savoir si pour être pamphlétaire à ce moment-là, il faut une censure, ou si au contraire le pamphlet résulte de la fin de la censure telle que elle a été marquée très fortement par la loi de juillet 1881, une fois la Troisième République installée. Rochefort,
c'est un personnage peut-être un peu oublié aujourd'hui, mais qui à l'époque connaît une notoriété très forte, notamment justement à ce moment-là de la fin du Second Empire. Au départ, c'est un vaudevilliste et un journaliste chroniqueur au Figaro qui commence à se faire connaître par un certain nombre de piques contre l'empereur, ce qui lui vaut d'ailleurs de quitter le Figaro.
C'est le moment où l'empire se libéralise quelque peu.
Voilà, on a quand même la loi de 1868 qui est assez importante puisque il n'y a plus de censure préalable, il n'y a plus d'autorisation préalable. Et donc ça change tout, on peut être sanctionné ex post après coup, mais on a la possibilité quand même d'écrire des textes qui peuvent déranger les pouvoirs.
1868, deux ans avant la chute du Second Empire, Rochefort a 36 ans, c'est une date importante, il fonde un journal qui s'appelle La Lanterne, qui va très vite atteindre une très large diffusion, et qui est connu notamment dans son numéro 1, par la formule immortelle, il y a en France 36 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement.
Oui, alors c'est plutôt drôle, ce n'est pas forcément très méchant. Aujourd'hui, avec notre regard à nous, on n'y voit d'ailleurs pas un ton pamphlétaire très marqué. Et pourtant, ça déplaît beaucoup, puisque c'est un des premiers journaux d'opposition à l'empereur, au Second Empire. Et très vite, ça va entraîner une sorte d'engrenage où on va essayer justement d'interdire Rochefort. Et donc, il fait l'objet d'un certain nombre de procès. Et donc... progressivement, Rochefort radicalise son ton hein, et ça devient finalement beaucoup plus agressif.
J'ai envie de vous le présenter tel que l'a vu Jules Vallès, qui était un autre de ces pamphlétaires éminents auxquels vous faites un sort, Cédric Passat. Voilà comment Vallès voit Rochefort, un front énorme et qui ressemblerait à un front d'hydrocéphale s'il n'était carré et aplati aux tempes. Signe particulier des siffleurs, serpents ou pamphlétaires. Un nez dur comme un bec, les pommettes des joues saillantes, la bouche coupée par un canif, le menton tant soit peu en galoche, mais où la barbiche pointe comme un fer de toupie. Une peau pâle, couleur de pierre, et tachée comme un plâtre écaillé de trous que la petite vérole a creusés. Sur cette tête-là, des cheveux drus, droits et noirs, comme un bonnet à poils, hérissés par l'électricité. Ah, vous avez l'air cocasse et fatal, cocasse et fatal.
Oui, Vallès finalement fait la publicité de Rochefort. Il annonce le pamphlétaire en devenir et donc il y a quand même une sorte de campagne qui est menée qui va favoriser aussi le succès de la lanterne. Cette lanterne, comme disait Rochefort, qui était destinée à pendre les malfaiteurs et à éclairer les honnêtes gens.
Il est happé tout de suite par un tourbillon d'images qui vont fabriquer, souvent naturellement avec sa complicité, mais pas toujours, un personnage, Rochefort.
Oui, on le voit dans le texte de Vallès, on le voit aussi dans un certain nombre de caricatures qui circule à l'époque et qui contribue aussi à sa popularité, même si c'est parfois pour le dénigrer, c'est aussi par le dénigrement et par les attaques que progressivement Rochefort est constitué en objet de scandale qui va assurer le succès. Il y a une forme de transgression là pour les lecteurs qui suscite la curiosité et qui suscite l'envie.
Ce moment Rochefort dure et il est marqué aussi par les événements dramatiques de la Commune, puisque Rochefort soutient la Commune et se trouve de ce fait déporté, mais pas jusqu'à la fin.
Non, alors Rochefort, il a une vie vraiment rocambolesque. On a à peine à imaginer ce que ça pouvait être une vie à l'époque, où il est d'abord exilé à Bruxelles, il est déporté, il s'évade de Nouméa en Nouvelle-Calédonie où il avait été exilé.
C'est un cas à peu près unique d'évasion.
Oui, il va, Rochefort, continuer parfois à écrire, mais souvent depuis Bruxelles, depuis Londres, parce qu'il est persona non grata en France.
Alors comment, une fois qu'il est revenu, comment Rochefort s'adapte-t-il à la Troisième République ? Parce que se mettre toujours dans une position d'opposant, ça peut conduire à un certain nombre de circonvolutions par rapport à des idées qui paraissaient fortes à l'époque du Second Empire où il était républicain.
Oui, il le revendique d'ailleurs. Il dit « Je suis un opposant systématique ». Donc il est opposant sous le Second Empire à l'Empereur. Il défend la République. Et puis quand la République s'installe, il devient aussi un opposant, alors certes à la République des opportunistes, mais progressivement, il va quand même avoir une trajectoire politique assez complexe, puisque dans les années 80, là où il crée l'intransigeant, il va se rapprocher des boulangistes. Et finalement, il finira à l'extrême droite, proche d'un Édouard Drumont. Donc il a une trajectoire
Édouard Drumont, c'est lui que nous verrons tout à l'heure, marqué en particulier par l'antisémitisme forcené.
Et Rochefort a une trajectoire ainsi qui le conduit de l'extrême gauche à l'extrême droite.
Il est boulangiste, ce qui paraît conduire un peu loin de la Commune.
En effet, et c'est ce qui va d'ailleurs sans doute contribuer à le décrédibiliser, puisque finalement on va considérer qu'il utilise toujours les mêmes techniques, mais sur des cibles qui sont complètement opposées. Donc il perd un petit peu en crédibilité. À la fin de sa vie, on considère parfois comme un clown.
On doit signaler que c'est un duelliste impénitent. C'est le temps où le duel est très directement lié au combat littéraire des pamphlétaires.
Donc en effet, le duel à l'époque est quelque chose de très très présent dans la vie politique, et d'ailleurs ce qui explique aussi que ces pamphlétaires bénéficient, comme on le disait tout à l'heure, d'une certaine impunité. C'est-à-dire que dans la loi même de 1881, il y a quand même des sanctions prévues, notamment pour la diffamation ou pour l'injure, mais il y a des formes de contournement de ces sanctions, parce que souvent les normes de l'époque conduisent à régler les atteintes à l'honneur, non pas par justement le recours au tribunal, mais davantage par les duels. Et Rochefort est un des plus fameux duellistes de l'époque.
Si nous réfléchissons à la nature même du genre pamphlétaire dans ces années-là, il n'est pas malvenu, me semble-t-il, de citer ce texte de Jules Vallès, autre grand pamphlétaire. Vous savez, l'auteur de L'Enfant, L'Étudiant, L'Insurgé. Jules Vallès, qui expliquait de la sorte la manière dont il fallait faire un pamphlet efficace, un article pamphlétaire en tout cas. C'est une citation de l'émission Collège des ondes du 17 novembre 1959, une lecture de Paul-Émile Deybert de la Comédie française.
Avant d'écrire un article quelconque, cherchez l'idée mère. Précisez-vous à vous-même le coup principal que vous voulez porter, la résultante que vous tenez à obtenir et à faire jaillir sous les yeux de la foule. Il faut faire un plan et le consulter de côté comme un musicien regarde le chef d'orchestre et limer son mot de la fin pour qu'il déchire et salisse. Le mépris condensé vaut la goutte de vitriol. Le fait, le fait, le fait, la vie, des détails, que la synthèse sorte de ces détails, que le lecteur, sur cette analyse, reconstitue l'idée. Montrez au peuple le paysage dans tous ses cadres et livrez-lui pour l'intéresser des anecdotes à foison. C'est le son de l'histoire, l'anecdote.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Alors, cette description est fidèle, Cédric Passard, au genre du pamphlet tel que vous l'avez étudié, tel que vous pouvez le considérer.
Oui, l'extrait est vraiment intéressant dans le fait qu'il nous donne le mode d'emploi même du pamphlet. Alors c'est un genre compliqué parce que justement il faut manier dans la brièveté du texte des techniques qui sont quand même des techniques qui reviennent systématiquement. Donc les pamphlets se ressemblent, hein, il y a une sorte de code qui passe à la fois évidemment par une mise en scène du pamphlétaire lui-même, une certaine image de soi où il se présente comme quelqu'un qui est en marge du système, qui est une sorte de prophète, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi souvent à travers un récit particulier qui est le fait que le monde est dominé par l'imposture. Et donc, le pamphlétaire, il affronte seul des adversaires qui sont multiples et protéiformes, et c'est ce qui rend pour lui la tâche compliquée, finalement.
Avec toujours à proximité la tentation de ce que nous appelons aujourd'hui le complotisme, c'est-à-dire de réduire le monde à une influence d'un petit groupe de gens. Ça peut être les jésuites, ça peut être les juifs, ça peut être naturellement les francs-maçons qui vont regrouper dans une sorte de solidarité sinistre, regrouper une influence qui se manifestera par le fait qu'ils tireront les ficelles des acteurs qui prétendront être efficaces sur le devant de la scène.
Oui, il y a une affinité très claire entre ce genre pamphlétaire et une pensée du complot, parce que justement, pour les raisons qu'on vient de dire, le pamphlétaire, il se voit seul contre tous. Pour lui, le monde est dominé par un groupe invisible, mais finalement qui tire les ficelles, même si parfois l'identité de ce groupe change, tout en faisant en sorte d'ailleurs souvent que au fond, tout le monde est lié. Les juifs et les francs-maçons sont liés. On a un complot judéo-maçonnique. Et finalement, on a une règle qui est celle un peu de l'ennemi unique derrière cela.
Il y a là d'ailleurs un autre auteur qui peut intervenir dans notre conversation, car il est symbolique. C'est le fameux Léo Taxil. Je voudrais que nous arrêtions un instant. Autrefois, dans la jolie collection Archives, Eugène Weber, le grand historien américain, avait publié un livre sur lui qui s'appelait « Satan franc-maçon ». C'est un mélange de canular et de forfanterie, un mélange d'escroquerie et de fausse sincérité.
Oui, donc Léo Taxil lui-même...
Pseudonyme.
Qui est un pseudonyme, en effet, qui est lui-même au départ quelqu'un qui est très anticlérical. Il fonde une librairie anticléricale qui fonctionne bien et il publie vraiment beaucoup de pamphlets.
C'est un grand succès, dizaines de milliers de numéros vendus.
Oh, oui, on est dans centaines de milliers d'exemplaires. Il devient membre du Grand Orient de France, mais dont il est exclu, notamment pour des raisons de fraude littéraire. Et à un moment où justement sa librairie anticléricale commence aussi à moins bien fonctionner, mais finalement il va connaître une sorte de revirement complet, il va se convertir au catholicisme et il va éditer des pamphlets anti-maçonniques.
Est-ce qu'il s'est converti ou est-ce que c'est une autre forme de canular? D'après Weber, il aurait prétendu qu'il dévoilait les secrets des loges pour tromper en fait le catholicisme et susciter une indignation malvenue du côté de l'Église catholique.
C'est compliqué à dire parce que, en tout cas, si c'est un canular, c'est un canular peut-être le plus long du monde, hein, puisqu'il va durer une dizaine d'années. Mais en effet, il dira plus tard que c'était une manière de discréditer le catholicisme, puisque dans ses pamphlets, il décrit des choses qui sont vraies sur le fonctionnement des loges, mais surtout, il affabule finalement en présentant ces loges justement comme un endroit où on va révérer Satan, hein, ou Lucifer, et donc il présente les loges comme des lieux d'un culte satanique.
Il y a une dame qui s'appelle Diana Vaughan et qui serait la fille de Satan, et ça marche. Il y a un public qui croit ça.
Oui, ça marche très bien. Hein, ça marche très bien. Alors, il faut dire que c'était préparé par un ensemble d'autres pamphlets. Et on est aussi quand même dans une époque où l'Église catholique a lancé quand même aussi une guerre, pourrait-on dire, à la franc-maçonnerie. Donc finalement, il y a un public quand même qui peut être friand de ces révélations, même si parmi même les catholiques, certains commencent à un moment donné à se dire que quand même c'est ça peut-être un peu trop loin pour être complètement vraisemblable.
On peut observer que le pamphlet, c'est un genre extrêmement masculin, peut-être parce que c'est rattaché à certaines idées de la virilité, peut-être pour d'autres motifs.
Oui, en effet, le pamphlétaire met en scène quand même une sorte de courage viril, hein, une posture chevaleresque, au fond, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, il y a un imaginaire qui est un imaginaire viril derrière ça. Alors, c'est sans doute que ça peut expliquer le fait que la plupart des pamphlétaires, voire la totalité des pamphlétaires à l'époque, qui sont les pamphlétaires de grand renom, sont des hommes. Ça peut s'expliquer aussi par le fait simplement qu'à l'époque, les femmes sont quand même assez peu présentes dans la littérature. Et quand elles sont dans des genres qui sont justement pas des genres vraiment politiques.
Les exceptions, oui, avec Séverine, par exemple, voilà. La grande journaliste, qui est très proche de Vallès.
Oui.
Mais elle est d'autant plus remarquée qu'elle est rare.
C'est ça. Séverine, c'est une des exceptions, mais avec justement des critiques qui viennent d'autres journalistes ou des pamphlétaires. On la baptise Notre-Dame de l'alarme à l'œil. Donc c'est une manière de dire justement, elle est quand même dans quelque chose qui est d'un manque de courage ou trop larmoyant.
En termes sociologiques, est-ce qu'on peut définir ce petit groupe de pamphlétaires où on peut inscrire également Octave Mirbeau, Léon Daudet, outre Jules Vallès que j'ai déjà cité? Est-ce qu'on a raison de dire que ce sont des sortes d'hérétiques littéraires qui se distinguent des autres écrivains, des journalistes qui, eux, sont souvent surchargés de diplômes?
Oui, alors sans doute qu'il y a des propriétés sociologiques ou sociales propres à ces pamphlétaires qui sont pour beaucoup soit des déclassés, soit issus plutôt d'une petite bourgeoisie qui n'a pas forcément fait beaucoup d'études, mais qui essaye de finalement s'imposer dans le monde littéraire et qui va rejoindre la bohème littéraire de l'époque. Et donc qui se retrouve en situation de domination un peu dans ce champ littéraire, c'est-à-dire c'est pas les personnages établis, mais ils sont pas forcément dans l'avant-garde littéraire. Donc ils partagent avec l'avant-garde une forme de volonté de subversion au sein de l'espace littéraire, mais ils s'adressent quand même à un public beaucoup plus large et surtout ils ont un contenu plus politique. Et souvent finalement le pamphlet peut être vu comme répondant à une stratégie finalement pour se faire une place par le scandale pour ceux qui se voient, comme le disait Octave Mirbeau, comme des prolétaires des lettres.
Je ne sais pas si on peut inscrire Émile Zola parmi cette cohorte que vous évoquez. On l'a fait souvent à cause du fameux J'accuse de 98 en faveur de Dreyfus. Dès les débuts de la Troisième République, il est en fait journaliste et il rencontre des débats de l'Assemblée nationale avant la Constitution de 1875. J'observe avec un sourire qu'on a regroupé ces articles sous le titre « La République en marche » qui avait été édité dans les années 50. Écoutons cet exemple d'un texte de Zola consacré à Monsieur Thiers, qui a été, vous le savez, au début de la Troisième République, le chef de l'exécutif et le premier à avoir porté le titre de président de la République, après avoir évidemment écrasé la Commune dans le sang. Mais il a contribué en marchant vers la République. Gambetta, d'ailleurs, l'a salué comme tel. Il a été, en somme, le fondateur de la République. Mais voilà comment Émile Zola, depuis la tribune des journalistes, le voyait dans l'Assemblée.
Quel homme que Monsieur Thiers! Il parle avec une négligence incroyable, se répétant à chaque mot, hasardant des vérités de Monsieur de la Palice, n'ayant à son service que deux ou trois arguments, soyons sérieux, et encore faites ceci, faites cela, si vous voulez être une grande Assemblée nationale. Et ce diable d'homme réussit toujours à avoir raison. Il se fait applaudir par la gauche, il se fait applaudir par la droite. Il entraîne par moments la chambre entière. Quelle est donc sa force à cette commère bavarde qui se perd dans les papotages les plus menus, qui met une idée dans 20 phrases? Le bon sens, puissance admirable, invincible, à laquelle tout le monde se rend, sans même en avoir une conscience bien nette. Puis, il faut le dire, Monsieur Thiers, expression moyenne du génie français, ne choque personne. Monsieur Thiers, nasillant, causant comme un bon et rusé bourgeois, se fait écouter et convainc ses adversaires eux-mêmes. C'est qu'il est à la portée de tout le monde, c'est qu'il ne blesse aucune conviction, c'est qu'il n'effarouche pas par des qualités excessives le tempérament moyen d'une assemblée.
C'est un pamphlet, Cédric Passard, ou une analyse ironique, un portrait amusé?
Non, je pense qu'on peut dire que c'est un pamphlet, au sens où on a bien l'attaque ad hominem. On a quand même une forme d'agression. Alors, le ton peut être plus ou moins virulent, mais on répond bien là aux critères qui sont ceux d'un pamphlet. Et c'est intéressant de voir qu'à l'époque, le pamphlet, au-delà même de ceux qui sont vraiment les pamphlétaires reconnus, c'est une arme quand même qui est utilisée assez fréquemment. C'est aussi un registre d'action politique ou journalistique qui dépasse peut-être le corps de ceux qui sont les propres spécialistes de ce genre.
Oui, il n'y a pas vraiment de solution de continuité entre ce groupe de pamphlétaires désignés comme tels, autodésignés d'ailleurs souvent, et des auteurs qui ont publié des textes très, très virulents. Je pense par exemple à Victor Hugo, Napoléon le Petit.
Alors voilà, c'est là qu'on voit qu'on peut faire usage de pamphlets, mais sans être désigné comme pamphlétaire. C'est tout le paradoxe. Sans doute que ceux qui sont désignés comme pamphlétaires, c'est ceux justement qui ne bénéficient pas d'autres formes de reconnaissance qui permet justement de dépasser peut-être ce statut. Donc il faut rappeler encore une fois qu'il, comme le disaient les dictionnaires de l'époque, se prend en mauvaise part. C'est-à-dire c'est un terme qui reste quand même largement discréditant.
Même s'il le revendique, suivant un vieux procédé, il revendique comme une fierté.
C'est ça. On renverse là et on fait d'un terme qui est discréditant un terme valorisant par une forme d'inversion de ce qu'on appelle en sociologie une forme d'inversion du stigmate.
Il y a une donnée majeure sous la Troisième République, c'est évidemment le refus du parlementarisme. Des hommes comme Rochefort changent de cible.
Oui, dans les années 1870 et a fortiori dans les années 1880, on peut dire que l'antiparlementarisme est quand même ce qui a le trait le plus commun de tous ces pamphlétaires qui s'attaquent à la République. Ils voient comme une République modérée, mais une République parlementaire et une République corrompue. Alors, ce ne sont pas toujours les mêmes raisons qui expliquent l'antiparlementarisme selon les sensibilités politiques des pamphlétaires. Ainsi, chez les pamphlétaires qui sont plutôt libertaires ou même les pamphlétaires socialiste, on a plutôt un rejet du parlementarisme parce que finalement on veut une république radicale et donc une république sous forme d'une forme de démocratie plus directe et donc on remet en cause toutes les médiations politiques. Par contre, chez les monarchistes, par exemple, hein, là, on a un refus du parlementarisme parce qu'on y voit, au contraire, une forme de démocratie qu'on rejette.
Hein. Il y a un homme que nous n'avons pas encore cité, mais qui fait partie, me semble-t-il, de ce groupe, c'est Léon Blois. Léon Blois, qui est du côté de ce que vous venez de définir, qui disait « tout ce qui n'est pas exclusivement catholique doit être jeté aux latrines ». Il y a souvent du scatologique, d'ailleurs, dans toutes ces expressions.
Oui, Blois, c'est ce qui peut-être le distingue d'autres pamphlétaires de ce point de vue-là. Il a un registre scatologique qu'on ne trouve pas chez Rochefort ou chez d'autres, et qui peut, d'une certaine manière, déjà préfigurer ce qu'on retrouvera avec quelqu'un comme Céline, même si les cibles ne sont pas les mêmes. Donc, mais ça rappelle aussi, d'une certaine manière, la littérature pornographique ou les libelles pornographiques qu'on avait, qu'a étudié Robert Darnton, par exemple, au moment de la Révolution française. Il n'hésite pas à utiliser ce genre de registre.
Blois est vraiment intéressant. C'est lui qui disait, on dirait que la douleur donne à certaines âmes une espèce de conscience, c'est comme aux huîtres le citron. Oui, il y a vraiment, chez un homme comme Léon Blois, il y a une sorte d'obsession de l'obscène.
Oui.
L'obsession de l'obscène. Regardez ce registre dans lequel il dénonce l'omniprésence des sodomites dans la vie publique française. On est en 1885. Il écrit, au fait, je tiens à le citer parce que ça donne une idée vraiment de la violence et en même temps des inspirations assez spécifiques de ce genre d'écrit. Au fait, ne sommes-nous pas devenus des sodomites à l'heure présente, de fervents et convaincus enfants de Sodome, 10 à l'Académie française, 50 au moins au Sénat, 477 à la Chambre des députés, bigre, 39 au conseil municipal, presque toute la magistrature, le notariat, l'enregistrement, la finance, la presse, le commerce, l'armée de terre et de mer et l'innombrable cohue administrative. C'est à se demander, conclut Léon Blois, par quel miracle il se fait encore des enfants. C'est une obsession frénétique et qui touche à l'absurdité.
Oui, alors on a toujours ces registres hyperboliques chez les pamphlétaires. On ne craint pas l'excès, on retrouve ce que disait tout à l'heure Jean d'Ormesson. Et cette vision complètement conspiratoire du monde, hein, toute la magistrature, l'ensemble des autorités instituées regroupe les sodomites en l'occurrence. Mais finalement, ici sont les sodomites, parfois ce sont d'autres figures qu'on retrouve, mais c'est toujours finalement le même type de procédé.
Il y a un autre écrivain qui s'inscrit dans ce groupe des pamphlétaires de la fin de la Troisième République, auquel nous consacrons cette émission, c'est Octave Mirbeau. Sacha Guitry l'aimait beaucoup. Et il lui rend hommage de la façon que voici, en évoquant le tempérament de ce pamphlétaire. Est-ce qu'il y a du côté de tous quelque chose comme un esprit sombre? On peut en discuter. Voici Mirbeau, peint par Sacha Guitry. On est en 1954, le 16 août, dans l'émission « Sans merveilles ». Et voici l'incomparable Guitry.
Je voudrais rendre hommage Un homme qui adora la peinture et l'a servi de toute son intelligence et de tout son cœur. Cet homme, c'est Octave Mirbeau. Et ce fut mon plus grand ami. Loin d'être modéré, Mirbeau ne pouvait en effet dissimuler ni son admiration, ni son antipathie. Il en convient quand il s'écrit que devant ceux qui l'impatientent, il se sent pris aussitôt d'une envie folle de les contredire et même de les injurier. Ils peuvent, écrit-il, ils peuvent soutenir les opinions qui me sont les plus chères. Je m'aperçois aussitôt que ce ne sont plus les miennes. Et mes convictions les plus ardentes dans leur bouche, je les déteste. Je ne me contredis pas, je les contredis. Je ne leur mens pas, je m'évertue à les faire mentir. Je me sens en joie, en verve. Si je pouvais avoir de la haine, vraiment de la haine, je crois bien que j'aurais, pauvre de moi, du génie. Il en avait précisément, et il n'avait pas que le génie de l'invective. Jules Renard disait de Mirbeau, « Mirbeau se lève triste et se couche furieux. » Et c'était vrai. Triste, il l'était à son réveil, en pensant aux injustices qui allaient se commettre. Furieux en se couchant, il l'était de ne pas les avoir toutes réparées.
Vous le retrouvez, votre Mirbeau, Cédric Plassard,
oui.
Dans la bouche de Sacha Guitry?
Oui, alors Mirbeau, aujourd'hui, on le connaît toujours pour le journal d'une femme de chambre, par exemple. Mais en effet, ça a été un pamphlétaire qui a écrit...
Oui, il y a une société des amis de Mirbeau qui est très active.
Et a écrit notamment un pamphlet qui s'appelle Les Grimaces. Et les Grimaces reprenaient exactement le format de la lanterne de Rochefort, jusqu'à la couverture rouge, de la même manière que Léon Blois, dont on vient de parler, avait écrit un ouvrage qui s'appelle Le Pâle, dont on comprend bien le terme, et qui reprenait aussi tout à fait le même modèle que celui de Rochefort. Et au point que Mirbeau, on disait de lui que c'était un roche faible. De fait, sa carrière pamphlétaire va être quand même moins durable que celle de Rochefort, mais peut-être pour le meilleur pour lui, puisqu'il va connaître le succès à travers des pièces ou une œuvre qui sera davantage reconnue dans la postérité.
Blois a écrit un roman qui s'appelle Le Désespéré et Mirbeau un article très connu qui s'appelle Le Raté.
Oui, c'est-à-dire que c'est largement autobiographique et c'est ce qui nous permet justement de comprendre un peu quelles étaient les logiques du recours au pamphlet. Blois, plus tard, il dira « Je ne veux plus rien entendre de mon ancienne carrière de pamphlétaire. Ne m'appelez plus pamphlétaire. » Il le dit d'ailleurs dans Un désespéré. Et notamment, donc, il explique que pour lui, le pamphlet, c'était une manière de se faire une place dans le monde des lettres, qu'il espérait, par le pamphlet, pouvoir être reconnu.
Oui, on retrouve toujours cette question des relations avec l'argent, qui est importante. Comment vivre? Léon Blois était toujours extrêmement pauvre, au point de dire « Le manque d'argent est tellement le mystère de ma vie que même lorsque je n'en ai pas du tout, il a l'air de diminuer. »
Oui, ce sont des écrivains journalistes qui d'abord cherchent simplement à pouvoir vivre de leur métier de littérateur. Et le pamphlet, pour eux, correspond parfois d'ailleurs à simplement des commandes. Si on reprend Mirbeau, par exemple, Les Grimaces, c'est d'abord une commande qui lui est faite pour attaquer. D'ailleurs, il s'en voudra plus tard, il dira en fait le contenu même des Grimaces, c'était pas le mien, j'écrivais pour d'autres. Et d'ailleurs, il y a un contenu antisémite dans Les Grimaces dont Mirbeau se repentira par la suite.
Et c'est là qu'il faut en venir à Drummond, qui est un autre grand pamphlétaire du temps, mieux connu grâce à l'excellente biographie que Greg Warkoffmann en a donnée récemment, qui est le journaliste, il se veut sociologue, le journaliste, le pamphlétaire, qui a créé La Libre Parole, un journal qui a eu du succès, et qui constitue un condensé d'antisémitisme qui marque beaucoup cette période. Écoutez, pour avoir une idée du ton de l'époque, on l'oublie parfois, écoutez cet extrait du journal de Drummond, La Libre Parole, donc du 20 avril 1892. C'est le premier numéro, en fait, où il annonce la couleur. C'est une citation extraite de l'émission Frissons, fin de siècle, de Jean-Pierre Rioux. Rioux avait consacré un livre important à ce moment-là. Sur France Culture, 28 août 1990, c'est Henri Poirier qui lit cet extrait.
Ah oui, le châtiment est proche. Et la libre parole fera tout ce qui dépendra d'elle pour qu'il arrive le plus tôt possible. Le grand effort est accompli. L'œuvre de délivrance est en bonne voie, l'idée est imprimée dans tous les cerveaux. Bientôt, tout le monde est exaspéré contre le juif. Les femmes françaises s'en mêleront et chasseront l'envahisseur à coups de balai. Les chiens eux-mêmes, les chiens de France, en force d'entendre répéter sans cesse, au milieu des imprécations, les noms sinistres des Rothschild, des Erlanger, des Dreyfus et des Isaac se mettront de la partie et hurleront toutes les fois qu'il s'agira de l'un d'eux. Vous verrez comme il nous sera facile de nous arranger entre compatriotes lorsque nous serons débarrassés de cette horde de juifs venus de Francfort, de Cologne, de Hambourg, de tous les Meyer, de tous les Strauss, de tous les Reinhardt qui s'amusent à nous faire battre entre nous pour nous dévaliser à leur aise, à la faveur du tumulte. Vous verrez combien tous les dissentiments s'apaiseront vite lorsqu'on aura compris la parole de Jeanne d'Arc. Il faut que le sang de France soit maître. Lorsqu'on aura adopté notre programme qui se résume en un mot, la France aux Français.
La France aux Français, nous savons que c'est aussi un cri de haine qui a prospéré parmi certains dans les années 30.
Oui, c'est-à-dire que Drumont, il annonce déjà ses pamphlets d'extrême droite qu'on retrouvera de manière très importante autour de l'Action française, mais aussi de brûlots fascisants comme Je suis partout, comme au pilori. Et donc on a un certain nombre de pamphlétaires qu'on retrouvera dans les années 30 avec une virulence encore plus importante que celle de Drumont, puisque Drumont, comme vous l'avez dit, se veut lui sociologue, donc c'est à la fois pamphlétaire, et d'ailleurs il est perçu comme tel à l'époque, mais il y a une volonté finalement d'être un historien du temps présent qui aujourd'hui bien sûr nous choque quand on le lit.
Le mot est faible.
Et donc Drumont c'est une figure très importante de l'époque du monde du pamphlet, mais qui pose souci par rapport à la brièveté qui définissait jusque-là le genre, parce que sa France juive, hein, à côté de la Libre Parole, il a aussi écrit ce qui est un best-seller à l'époque.
Un gros livre.
Un très gros livre, La France juif qui fait 1200 pages et qui connaît plus de 60 000 exemplaires vendus en une seule année.
Je voudrais, avant que nous nous séparions, Cédric Passard, je voudrais que nous réfléchissions aux raisons pour lesquelles on constate un certain déclin du genre du pamphlet à la fin du 19e siècle, au début du 20e. Le pamphlet a contribué à la fois, c'est un peu votre thèse, vous allez me le dire, à une vulgarisation de la chose publique et en même temps à créer une distance entre les petits et les gros, qui est une distance qui n'a pas cessé d'être assez familière jusqu'aujourd'hui.
Oui, c'est toute l'ambiguïté ou tout le paradoxe, c'est que les pamphlets à l'époque accompagnent l'entrée dans la démocratie moderne, contemporaine.
L'âge médiatique.
Dans l'âge médiatique. Et ils acclimatent, ils acculturent, on pourrait dire, les Français au débat d'idées, aux querelles, hein, même si c'est sous des formes souvent dévoyées. Et on peut y voir peut-être une phase de transition entre ces moments qui étaient encore ces moments de guerre civile, d'émeutes, dont la Commune est un exemple.
Après toutes les barricades du 19e siècle, voilà. Toujours sanglantes.
Et donc on est dans cette ère quand même qui marque la fin des barricades. Et les pamphlets, d'une certaine manière, ils métaphorisent, ils représentent sous une forme un peu symbolique l'émeute dans le verbe. Et donc, ils ont pu être une forme d'accompagnement, peut-être, de la sortie de la guerre civile qui concernait jusque-là les manières de contester les régiments en place.
Vous y voyez presque, si je comprends bien, une sorte de catharsis, de défoulement qui jouerait dans l'ordre de l'écrit, ce qui jusque-là se jouait dans l'ordre de l'affrontement physique, tel qu'on le voit par exemple dans les souvenirs de Tocqueville, très clairement, en 1848, à un moment des journées de juin 48, si sanglantes, Tocqueville lit vraiment les événements avec son immense talent comme un affrontement des pauvres contre les autres.
Oui, et en même temps, je ne dis évidemment pas que la violence langagière est nécessairement un exutoire. Évidemment, la violence langagière peut parfois se traduire dans l'action, et on le voit bien d'ailleurs avec les pamphlets des années 30, où les pamphlétaires sont souvent proches des ligues et où cette violence du verbe se prolonge dans un au-delà du verbe et dans l'action en tant que telle. Mais dans cette période particulière, hein, c'est pas une hypothèse philosophique ou anthropologique, mais justement dans cette hypothèse vraiment de la dans ce contexte de la fin du 19e siècle, dans un contexte où justement l'ordre républicain est assuré, les pamphlets ont pu servir de défouloir, oui, peut-être.
Mais est-ce que la loi de 81, qui est extrêmement libérale, la plus libérale en Europe. Est-ce que celle-ci a servi le pamphlet ou au contraire, est-ce que le pamphlet se nourrissait d'une certaine forme de censure ?
Là aussi, c'est une forme peut-être de paradoxe. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça a permis l'explosion peut-être de la littérature pamphlétaire. Il n'y a d'ailleurs pas trop de doute là-dessus. Mais finalement, cette profusion du pamphlet, au final, elle aboutit à une forme de ritualisation, de routinisation d'un genre qui se prête mal à la routinisation. C'est-à-dire qu'à force de crier au scandale toutes les semaines ou tous les jours, bon, il y a une forme sans doute d'épuisement même des lecteurs. Et on voit bien quand même que les tirages commencent à baisser à la fin du 19e siècle, du début du 20e, à un moment aussi où le journalisme, pourrait-on dire, sous une forme un peu de néologisme, se dépamphlétise, c'est-à-dire qu'on a des journaux comme Le Petit Journal qui, justement, veulent mettre plutôt en avant une forme de neutralité, d'information qui touche le plus grand public et qui se dépolitise aussi.
Les cinq grands titres, il y en a cinq de l'âge d'or de cette presse populaire, effectivement, le métier de journaliste se précise. Alors qu'auparavant, il se mêlait d'assez près avec la définition de l'écrivain.
Oui, c'est un milieu social aussi qui se décompose, celui de ces écrivains, journalistes qui sont entre différents espaces, qui sont à la fois des écrivains, des publicistes, où le fait d'être journaliste au départ, c'est d'abord avoir un certain talent de plume, c'est d'abord d'être un écrivain. Progressivement, là, on a un métier de journaliste qui se met en place avec des règles modernes peut-être, notamment celle de la recherche de l'objectivité. La vérité n'est plus dans ce qu'on dit et dans l'opinion qu'on professe contre tous, hein, comme on le voyait avec Courrier, mais plutôt dans l'idée que c'est ce que tout le monde va partager et qui renvoie à une objectivité de l'information.
Le terme d'intellectuel, comme on sait, apparaît au moment de l'affaire Dreyfus, des intellectuels au sens substantif, pas d'adjectif. Est-ce qu'il y aura un certain passage du pamphlétaire à l'intellectuel de combat ?
Alors évidemment, encore une fois, les pamphlétaires ne disparaissent pas du jour au lendemain, et l'intellectuel, de ce point de vue-là, ne va pas supplanter complètement le pamphlétaire, mais sans doute qu'il joue un rôle dans la délégitimation de cette figure du pamphlétaire. C'est-à-dire qu'avec l'intellectuel, tel qu'on le voit par exemple avec Zola et avec son J'accuse, qui reprend à certains égards la rhétorique pamphlétaire, on voit aussi quand même que désormais, on n'est plus dans le registre de la singularité, dans le registre héroïque qui était celui du pamphlétaire, et surtout dans le registre de l'outrance, et voire parfois dans le registre ordurier. Au contraire, c'est désormais au nom d'un certain nombre d'idéaux, de valeurs, de justice, l'intellectuel se met en scène, et surtout dans une logique beaucoup plus collective, hein, puisque au départ, les intellectuels, ils font un manifeste, c'est donc une pétition, et sur laquelle, ce qui est important, c'est son statut propre, mais son statut universitaire, alors que justement, le pamphlétaire, ce qu'il mettait en scène, c'était au contraire sa marginalité.
Qu'est-ce qui reste, Cédric Passard, qu'est-ce qui reste du pamphlet aujourd'hui ?
Le genre pamphlétaire, aujourd'hui, a peut-être largement disparu. En tout cas, il n'a plus la légitimité qu'il pouvait avoir à la fin du 19e siècle.
Du temps de Gaulle, on pourrait citer par exemple le livre de Mitterrand sur le coup d'État permanent, ou le livre de également consacré au style du général et dû à Jean-François Revel. Si on les relit, ça paraît bien comme des pamphlets avec les outrances, le brio, les injustices. Alors, et l'efficacité peut-être à l'époque.
Oui, donc on le retrouve parfois comme des coups politiques, parfois par des acteurs politiques, mais chez les écrivains, même si on peut le retrouver chez certains polémistes aujourd'hui, bon, Éric Zemmour, d'une certaine manière, il est peut-être un pamphlétaire, mais on n'a plus cet espace du pamphlet, en tout cas cet espace littéraire du pamphlet. Si on doit le retrouver, c'est peut-être, pour reprendre ce que vous disiez en début d'émission, sur Internet et à travers des pamphlétaires anonymes, ou dans des genres musicaux peut-être, par exemple dans le rap, hein, on a des formes aussi de pamphlets qui peuvent se retrouver. Mais en tout cas, c'est un style et une certaine rhétorique pamphlétaire qui a aujourd'hui décliné.
De Paul-Louis Courrier au rap contemporain, je ne sais pas si c'est une vision cyclique de l'histoire, nous laisserons la question ouverte. Cédric Passard, votre livre sur lequel nous avons fondé largement cette émission s'appelle « L'âge d'or du pamphlet », publié en 2015 à CNRS Éditions. Vous pourrez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, trouver, vous le savez, une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons du sujet suivant, les veuves. Ça paraît très sinistre, mais ce n'est pas toujours sinistre. Les veuves entre douleur et liberté. Et je recevrai pour en parler un spécialiste éminent de ce sujet important, Frédéric Chauveau. Et puis lundi matin, vous retrouverez La Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin. Ce sera dans le cadre de la semaine spéciale que France Culture consacre au baccalauréat. France Culture passe le bac. La Fabrique révisera l'épreuve d'histoire. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée, comme toujours, très efficacement par Jeanne Guéroux et réalisée fort bien par Yaël Mandelbaum, avec Jordan Fuentes à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans un instant, comme chaque samedi, Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.